questions d'islam par Al Bensheir. C'est avec plaisir que je vous retrouve et aujourd'hui nous parlons de réforme, de la responsabilité de cette réforme, de la raison religieuse, dévote ou pas, avec la philosophe Razika Adnani. Razika Adnani, bonjour.
Bonjour Ralev.
C'est un grand plaisir de vous avoir et surtout vos propos édifiants et qui sûrement intéresseront nos auditeurs nous invitent à réfléchir davantage sur votre production. J'en ai deux, un article important intitulé effectivement l'islam, réforme et responsabilité, et surtout un ouvrage pour l'instant en langue arabe,
oui,
que j'essaye de traduire au fur et à mesure en vous posant les questions. Et vous me dites si la traduction du titre est bonne ou pas. Blocage, arrêt de la blocage de la raison, de l'exercice rationnel dans la pensée islamique.
En effet.
Bon, si c'est une bonne traduction, alors nous sommes heureux et nous y allons. Pourquoi d'emblée, Razika Adnani, vous parlez de la réforme, d'autres préfèrent parler de refondation de la pensée, notamment théologique. Et vous, vous parlez de réformes. N'y a-t-il pas eu des réformes qui ont abouti ou pas dans la longue et lente vie des penseurs et théologiens musulmans?
En effet, il y a eu des réformes qui ont, plusieurs réformes d'ailleurs, quand on parle de réformes de la pensée musulmane, il y a eu plusieurs, et celle qui aboutit, c'est la réforme wahhabite. On peut dire que celle-ci a vraiment abouti, étant donné qu'elle a aujourd'hui atteint un petit peu les musulmans dans le monde entier. C'est une réforme qui est spécifique, étant donné qu'elle est orientée vers le passé, c'est-à-dire qu'elle veut que l'islam retrouve son image d'avant. Donc que les musulmans repartent dans le passé pour retrouver l'islam des premiers musulmans, qui est, selon la théorie wahhabite, l'islam pur, le vrai islam. Celle-ci, donc, a abouti. D'autres n'ont pas abouti, comme les réformistes qui voulaient que l'islam aille vers une autre façon, une autre vision, une autre façon de le comprendre et de le pratiquer, qui est plus moderne, si je peux dire. Comme Ali Abdelrazak, par exemple, Taha Hussein, Amin al-Khouli, Khalaf Allah, tout cela était aussi dans un processus de réforme de l'islam. Cette réforme n'a pas abouti, étant donné qu'il y a eu des répostes des conservateurs qui voyaient dans cette réforme plutôt une menace pour l'islam. Donc pour eux, l'islam vrai, l'islam juste, l'islam bon, pur, c'est seulement l'islam des premiers musulmans, c'est la théorie salafiste. Cette réforme, il faut toujours préciser que c'est une réforme qui est orientée vers l'avenir, et il y a eu d'autres qui étaient entre les deux. Un œil vers le passé et un autre vers l'avenir. Je mettrai dans cette catégorie Mohamed Abdou, par exemple. Et même cela, leur réforme n'a pas réussi, n'a pas pu s'imposer. La seule qui a pu s'imposer jusque-là, c'est la réforme des salafistes, c'est-à-dire un retour à l'islam des premiers musulmans, tel qu'il l'a très bien défini d'ailleurs, comment il s'appelle, Youssef Al-Qaradawi, qui précise que réformer une chose pour lui, c'est lui permettre de retrouver son aspect initial.
Bien, alors je vous ai laissé exprimer tout ça et je ne m'empêche pas de vous poser au moins trois questions d'emblée, non sans au préalable avoir précisé que Youssef Al-Qaradawi est l'idéologue, ou paraît être l'idéologue des frères musulmans maintenant,
oui,
et que vous avez cité quelques-uns parmi ces réformateurs, notamment tout au long du XXe siècle. Mohamed Abdou est à la charnière des deux, du XIXe et du XXe, et Ali Abdelrazik est l'auteur notamment de l'ouvrage « L'islam et les fondements du pouvoir » qui,
oui,
est paru en 1925 et qui était porté au nu en même temps qu'il était voué aux gémonies nous aurons peut-être à y revenir. Alors, j'ai première question, Razika Adnani, j'ai cru comprendre que pour vous, réforme, ça va dans les deux sens. Ça peut être quelque chose qui aille vers le mieux, suivant son temps, son cours du temps, sa modernité, son mode étymologiquement, et aussi quelque chose qui relève d'une régression et notamment tragique. C'est pour ça que, à juste raison, vous parlez du wahhabisme comme étant une réforme, sauf que c'est une réforme tournée vers le passé.
Il y a deux manières de comprendre la réforme et de la revendiquer. Ceux qui veulent tout simplement débarrasser l'islam des éléments étrangers qui s'y sont incrustés, ils veulent donc que l'islam retrouve son image et son aspect d'avant, et d'autres qui veulent un nouvel islam, un islam plus adapté à l'époque moderne, à notre époque. Évidemment, moi je défends plutôt la deuxième version, une réforme orientée vers l'avenir, une réforme de l'islam qui permette aux musulmans d'être musulmans et de vivre convenablement et leur époque.
Donc je reviens à ma deuxième question, comme ça il y aura la troisième. Pour vous, il y a déjà un débat dans le débat, ce que d'aucuns appellent les débats gigognes, c'est que le mot réforme, déjà, nous n'arrivons pas à nous entendre dessus. Pour Youssef Al-Qaradawi, il n'y a de réforme que ce qui est retourné vers le processus initial. Et pour d'autres, on n'entend pas réforme, ce qui est plutôt orienté dans une vision futuriste, d'avenir en tout cas. Et comment trancher déjà l'essence de ce vocable ?
En effet, il y a plusieurs façons, au moins deux, de voir cette réforme, parce qu'il ne faut pas oublier celle qui est juste au milieu, un peu vers le passé et un peu vers l'avenir. Et je pense que la seule manière de clarifier les choses est de dire clairement qu'on cherche un islam nouveau, un islam moderne, un islam adapté aux nouvelles valeurs de l'humanité, un islam qui permette aux musulmans de vivre ensemble et avec les autres en bonne entente. Donc c'est surtout comment cette réforme doit être faite qui est plus important que le terme lui-même réforme.
Nous sommes d'accord là-dessus, bien entendu, nous n'allons pas nous y appesantir, simplement pour que nous comprenions que dès lors que chacun s'approprie le terme mais on ne met pas le même signifiant derrière, il faut bien qu'on sache de quoi on parle au juste. Alors c'était à la fois ma dernière question, en tout cas dans ce début d'émission. Pourquoi, selon vous, celle qui est intermédiaire, qui avait une sorte de regard dans le passé ou dans le rétroviseur et un autre devant, elle n'a pas abouti, celle-là aussi. La première, celle des wahhabites, nous comprenons et nous voyons pourquoi.
Elle n'a pas abouti parce que pour les conservateurs, même celle-ci était une menace pour l'islam. Les conservateurs ne veulent rien changer de l'islam des premiers musulmans. Donc, ils trouvent que même cette réforme de Mohammed Abdel Wahhab n'était pas la bonne et qu'elle, elle aussi, donc, était menaçante et il fallait...
Vous voulez dire celle de Mohammed Abdou?
De Mohammed Abdou, oui, pardon.
Qui est mort en 1905. De Mohammed Abdou, oui. Parce que pour les wahhabites, celle de Mohammed Abdel Wahhab a abouti. Il faut bien l'appliquer au pied de la lettre.
Et celle des frères musulmans, qui est d'ailleurs très proche des wahhabites.
Alors, nous n'allons pas, encore une fois, nous attarder sur la querelle des signifiants et des sens en moins double du mot réforme. Quelle est la responsabilité derrière et comment allons-nous faire pour arriver à cet islam que vous avez qualifié, vous lui avez donné quelques épithètes, moderne, d'avenir, bon, etc. La question est comment ?
Moi, comme je le dis donc dans mon livre que je viens de terminer, et même dans l'autre, celui que vous avez cité tout à l'heure, que j'ai écrit en langue arabe, pour moi, la réforme de l'islam doit commencer impérativement par la réhabilitation de la pensée et le déblocage de la raison. Parce que l'analyse que j'ai faite de la pensée musulmane m'a permis d'arriver à une conclusion que toute la pensée musulmane est bâtie sur une problématique fondamentale qui est celle de la place que doit avoir la pensée ou pas dans le domaine de la pensée musulmane. C'est-à-dire, Faut-il donner de la place à la pensée humaine pour qu'elle soit une source de connaissance dans le domaine du savoir qui concerne l'islam ou pas? Cette question s'est imposée aux musulmans dès le décès du prophète. Dès le décès du prophète, étant donné que les musulmans ont fait leur adieu au prophète avec l'ultime conviction qu'il leur avait légué un livre dans lequel ils trouveraient toutes les réponses à toutes leurs questions. Or, dès son décès, ils ont réalisé que le livre ne répond pas à toutes leurs questions. Et la première de ces questions, c'était la question de la succession. Donc le livre ne répondait pas à toutes les questions. Ibn Khaldun le dit d'ailleurs très bien. Si le livre ne répond pas aux questions posées, la pensée humaine, normalement, c'est à elle de répondre à ces questions. Mais dès que certains ont commencé à réfléchir eux-mêmes pour répondre à ces questions d'ordre politique et d'ordre social aussi, certains ont réagi, ils ont dit non, les musulmans... La seule source de connaissance pour les musulmans doit être la révélation, donc le livre. Et ils se sont divisés en deux écoles antagonistes. Celle qui voulait que la révélation soit source de connaissance et en même temps la pensée humaine. Donc la connaissance est révélée mais en même temps construite. Et ceux qui ne voulaient et qui ne voyaient que la révélation comme source de connaissance, pour eux la connaissance n'est que révéler. Donc, toutes ces querelles qui a divisé donc les musulmans dans le domaine exégétique, juridique, dans le domaine aussi théologique, elle les a divisées en deux écoles qui se sont elles aussi divisées en plusieurs écoles et en plusieurs courants. À la fin, vers le 12e siècle, c'est celle qui a dit que la pensée ne peut pas être source de connaissance et la seule source de connaissance est la révélation, c'est elle qui a pu s'imposer. Et à ce moment-là, les musulmans ont mis en place un principe qui disait que toute innovation est un égarement. Donc c'est un principe qui a mis fin à tout travail de la réflexion, de l'intelligence, etc. Donc il faut aujourd'hui qu'on arrive à réhabiliter la pensée comme un moyen non pas qui menace la révélation, mais au contraire un moyen qui permette de comprendre la révélation et de lui permettre à ce livre qui est un livre révélé selon la croyance musulmane, un livre sacré, c'est la pensée humaine qui lui permet de devenir un savoir humain, un comportement, etc. Donc on a besoin de cette pensée pour qu'elle fasse ce lien entre un livre sacré et d'autres livres que les musulmans ont écrit au sujet de l'islam. Et tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont dit, pensé, écrit et mis en place autour de l'islam dans le domaine de l'exégèse, dans le domaine juridique, dans le domaine théologique et méthodologique aussi, qui constitue aujourd'hui ce que nous appelons islam.
Bien. Al-Azika Adnani. Là aussi, votre plaidoyer pour la réhabilitation de la pensée, nous l'entendons et nous y souscrivons. Simplement, de quelle pensée s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de la pensée magique, où l'on continue à croire au surnaturel, au merveilleux, au mystérieux? Et si on dit qu'il faudrait peut-être pas croire à ces choses-là, d'autres vont vous dire « oui, mais ça relève du sceau de la foi ». Le saut périlleux de la foi, ou est-ce que c'est une pensée qui finalement s'affranchit de la raison religieuse dévote et qui va vers ce que d'aucuns appellent la raison critique autonome? Est-ce que d'abord vous pensez que c'est ce qu'il faut faire, et que répondez-vous à ceux qui disent oui, mais la raison raisonnante, duale, à double critère avec un tiers exclu, ne nous avait pas prémunis à travers l'histoire de la barbarie nazie, du bolchevisme et des égarements aussi de la de la pensée humaine. Ce sont des questions que je pose simplement.
Oui. Dans la pensée musulmane, la question de la pensée doit être un moyen de connaissance ou pas. Vers le 8e siècle, les Mu'tazilites, donc la théorie des Mu'tazilites a vu le jour.
Et les Mu'tazilites étant une école étymologiquement qui dit ceux qui se sont mis à l'écart, écartés, mais ils sont des rationalistes.
C'était des rationalistes. Pour eux, il ne suffisait pas de réfléchir, il fallait aussi réfléchir d'une manière rationnelle. Donc, moi, quand je parle de la pensée, la réforme de l'islam, je dis il faut réhabiliter la pensée, mais débloquer aussi la raison, parce que la pensée qui peut permettre cette réforme, c'est la pensée rationnelle, la pensée cohérente avec elle-même, la pensée cohérente avec elle-même, mais aussi avec les textes, parce que la pensée musulmane, j'ai fait donc dans mon travail, j'ai essayé de montrer toutes les contradictions qu'on retrouve dans la pensée musulmane et qui sont dues justement à ce blocage de la raison. Donc réfléchir l'islam, penser l'islam sans aucun repère de la rationalité et des principes de la rationalité, évidemment, nous a conduit à une pensée musulmane complètement contradictoire avec les textes, avec elle-même et avec la réalité. Donc pour moi, cette pensée doit être en effet rationnelle. C'est pour ça en arabe, je parle du blocage de la raison dans la pensée musulmane. Et la question que j'ai posée dans le livre, ce blocage est-il bénéfique ou maléfique à l'islam? Et pour moi, je trouve qu'il est maléfique à l'islam. Il a conduit la pensée musulmane à beaucoup d'erreurs qui n'ont évidemment pas été en faveur ni de l'islam ni des musulmans. Maintenant, que beaucoup disent aujourd'hui, non, la raison n'a pas beaucoup aidé dans l'histoire, surtout l'histoire qui n'est pas très loin de nous aujourd'hui. Je pense que la raison, c'est quoi? La raison, c'est un ensemble de lois qui nous permettent de réfléchir d'une manière correcte, d'une manière cohérente, d'une manière rationnelle, d'une manière où on pourrait éviter, si je peux dire, les contradictions. Donc cette faculté qui permet à la pensée de penser correctement. Après, la raison, tout dépend de la pensée, les moyens que la pensée utilise elle-même. C'est-à-dire, je peux dire que la même réflexion rationnelle peut nous emmener à deux ou trois ou plusieurs conclusions qui sont complètement différentes. Tout dépend des moyens ou des propositions qu'on utilise dans cette réflexion. Si vous, par exemple, vous pensez que Dieu n'existe pas, vous pouvez mener une réflexion tout à fait rationnelle, qui est cohérente jusqu'à la fin. Si vous démarrez sur une idée que Dieu existe, vous pouvez aussi mener une réflexion tout à fait rationnelle. Pour dire que la rationalité ou la cohérence c'est pas elle qui décide de l'idée elle-même. L'idée elle-même et la proposition, l'idée, c'est la pensée la construit, qui la donne, etc.
La boutade classique veut que Dieu n'existe pas, puisque exister, c'est sortir d'eux, or Dieu ne sort de nulle part. Pour les croyants, Dieu est. Pour ceux qui n'y croient pas, ben Dieu n'est pas. C'est plus le verbe être qui prévaut que le verbe exister, mais je dis ça en plaisantant.
Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Razika Adnani. Razika Adnani est à la fois philosophe et islamologue. Elle fait des recherches dans le domaine justement de la pensée islamique et ces questions de réforme, de la responsabilité des réformateurs avec cette vision réformiste. Et nous parlons notamment de son ouvrage écrit pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas eu de traduction, en langue arabe. Je le dis pour une fois en langue arabe, « Ta'tilul aqli fil fikril islami », pour les auditeurs qui sont sensibles à cette langue, et que nous traduisons, et c'était avec votre accord, Nazika Adnani, par « blocage de la raison dans la pensée islamique ». Je voudrais vous poser encore une autre question. Avant cet intermède-là, j'ai fait allusion que la raison résonante instrumentale ne nous avait pas prémunis de quelques errements du comportement humain. C'est parce que, c'est peut-être pas le lieu, et je ne vous demande pas une réponse directe, c'est que d'autres plaident pour la complexité, pour ce que d'aucuns appellent la raison émergente, c'est-à-dire une nouvelle rationalité qui allie à la fois les ressources inventives de la technoscience, de la nanotechnologie, de la révolution numérique, de l'intelligence artificielle, et en même temps, pour certains, il y a une soif inextinguible de spiritualité et un invariant besoin de transcendance. Comment réunir tout ça et sortir de certains blocages dans lesquels les gens se trouvent, musulmans ou non ?
Personnellement, quand je parle de la raison et de la pensée, je fais vraiment je distingue entre les deux. Hein. Pour moi, la pensée, c'est une faculté de réflexion qui permet la naissance des idées. La raison est une faculté qui permet à la pensée d'accomplir son travail sans commettre des incohérences et des erreurs de raisonnement. La pensée, quand elle applique ses moyens de la raison ou elle adapte la raison, elle peut devenir elle-même raison. Donc pour moi, la raison, c'est cette faculté qui nous permet donc de réfléchir et de raisonner logiquement, d'une manière rationnelle, d'une manière cohérente, ou c'est la pensée elle-même qui peut devenir raison si elle arrive donc à cette manière de réfléchir. Maintenant, beaucoup de ceux qui utilisent le terme raison l'utilisent plutôt dans le sens de pensée. Et donc, ils l'utilisent dans ce sens-là et c'est là que on n'arrive pas vraiment à se comprendre. Même Arkoun, d'ailleurs, quand il dit, il parle de la raison islamique ou de la raison arabe. Pour moi, il n'y a pas de raison arabe, il y a une pensée arabe, il y a une pensée islamique, mais pas de raison dans le sens où moi, je l'utilise. Donc, pour moi, la raison, c'est plutôt un moyen qui permet à la pensée d'être rationnelle et d'être cohérente dans sa façon de réfléchir, alors que la pensée, ce sont toutes ces idées qui construisent une pensée et qui peut être arabe, chrétienne, musulmane, etc. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de toute cette pensée, de tous ces éléments nouveaux dans le domaine de la pensée pour aller vers un monde nouveau, un monde différent, etc. Oui, pourquoi pas. Mais la raison, la façon dont je la conçois, cette manière qui nous permet de construire notre raisonnement et notre réflexion d'une manière rationnelle ou d'une manière au moins cohérente, je pense qu'elle est la même pour tout le monde. Et voilà. Donc, mais en effet, pour aller vers une façon de réfléchir plus qui s'adapte à notre époque, en effet, on ne peut que nous utiliser toutes ces nouvelles idées qui peuvent nous aider à aller vers un monde meilleur, peut-être, dans le domaine de la pensée musulmane.
Alors, il me semble que Mohamed Harkoun utilise raison un peu dans le sens qu'ancien du terme, c'est-à-dire quand il parle de la raison pure, lui, il donne le qualificatif raison islamique, raison juridique, comme on l'aurait dit. Alors, moi, je voudrais partir sur quelques exemples, puisque vous avez dit qu'il y a eu des contradictions, des incohérences dans la pensée, cette fois-ci, islamique à travers les siècles. Si vous pouviez nous donner un ou deux exemples, moi j'en ai un particulièrement. Si ce que vous allez nous donner le rejoint, c'est très bien. Sinon, je vous pose directement la question.
Et quel est le vôtre?
Alors, le mien, c'est la question de la succession. Donc, c'est une question éminemment politique. Non seulement le prophète ne donne aucune consigne, on a beau compulser le Coran, celui qui se trouve dans un codex entre deux couvertures du premier verset jusqu'au dernier, on ne trouve pas d'indication claire quant à la gestion des affaires dans la cité. Donc là, ça devient une délégation faite aux hommes. Et voilà que quelques-uns, et surtout de nos jours, ont cru comprendre qu'ils ont pénétré le désir politique de Dieu et scruté sa volonté pour pouvoir l'imposer à leurs semblables dans la cité. Et c'est cette manière de plier le texte à une certaine vision du monde est en soi une usurpation, voire une incohérence avec ce qu'on peut lire directement dans le corpus coranique et même dans la tradition prophétique, puisque le prophète n'avait pas laissé de consigne quant à sa succession.
En effet, plusieurs contradictions existent aujourd'hui dans le domaine de la pensée musulmane. Et moi, je vous donnerai un exemple, celle qui concerne la justification du voile. Et j'aime bien parler de cette justification du voile que j'ai abordée dans mon autre livre, La nécessaire réconciliation. La justification du voile telle qu'elle est présenté par ses adeptes.
La nécessaire réconciliation est écrite en langue française.
En langue française. Donc, la justification du voile telle qu'elle est présentée par tous ses adeptes, il la présente comme suivant. Pour eux, la femme doit se cacher parce que, tout simplement, l'homme ne sait pas, ne peut pas maîtriser son corps devant la vue du corps de la femme. Donc, il présente cette image de l'homme incapable de maîtriser son corps comme...
Et ses pulsions.
Ses pulsions, comme la normale. L'homme, c'est comme ça qu'il est et c'est comme ça qu'il doit être. Le chapitre dans mon livre, quand je parle de ça, je l'ai intitulé « La déshumanisation de l'homme » parce que pour moi, cette image de l'homme est tellement déshumanisante et elle ne glorifie pas l'homme. Donc pour moi, c'est à l'homme lui-même de, normalement, le premier à se révolter contre cette justification. Mais si, et en cherchant dans le Coran, j'ai trouvé ce verset qui dit, le verset 32 de la sourate 33. C'est un verset qui dit « Ô femmes du prophète, vous n'êtes pas des femmes ordinaires. Si vous craignez Dieu, ne montrez pas trop de complaisance dans vos paroles, de peur que ceux dont le cœur est malade espèrent quelque chose de vous. » Donc, si je prends ce verset, évidemment, C'est un verset qui montre justement cet homme qui n'est pas capable de maîtriser ses pulsions ou son corps devant la femme est plutôt une exception. C'est un homme qui est malade. Ceux qui sont malades ou qui ont une maladie dans le cœur et n'ont pas l'état normal de l'homme. Et voilà, par exemple, une des contradictions. Ce genre de contradiction, il y en a beaucoup dans la pensée musulmane.
Cher Nazira Adnani, là, vous en faites une exégèse. C'est votre compréhension à laquelle nous souscrivons et nous nous en réjouissons tous. C'est que c'est la méthode elle-même. Vous avez fait en sorte que ce passage-là, qu'il faut savoir relativiser à son contexte, il s'agit d'un contexte bien particulier et ça concerne des hommes particuliers, ceux qui seraient portés à ne pas pouvoir se maîtriser ou ne pas pouvoir maîtriser leurs pulsions. Donc la portée de ce verset, elle n'est pas générale, elle est conjoncturelle. Et il se trouve que d'autres, je ne sais pour quelle raison, lui donnent une portée universelle.
Eh ben, la portée que les autres lui donnent, justement, il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que l'homme ne sait pas ou ne peut pas maîtriser son corps. La deuxième chose que je pourrais rajouter, c'est que cette justification qui montre l'homme dans cette image d'un être incapable d'être le maître de lui-même, va à l'encontre de l'esprit de la religion elle-même, toute religion. Pas l'islam lui-même, pas l'islam uniquement. Toute religion, normalement, s'adresse à l'être humain. Elle lui parle comme un être rationnel, capable de maîtriser pas seulement son corps, c'est son comportement, etc. Elle va à l'encontre aussi du jeûne, le ramadan, par exemple, l'esprit du ramadan ou l'objectif du ramadan. Nous savons que le jeûne, d'une manière générale, pas que le ramadan, on le présente toujours comme un exemple ou une pratique pour que l'homme, la femme et l'homme témoignent à travers cette pratique du jeûne qu'ils sont capables de maîtriser justement leurs instincts, leur corps. Et voilà, donc, entre cette justification et l'esprit de la religion, je trouve qu'il y a une incohérence, une contradiction, et entre cette justification du voile telle qu'elle présente l'homme et le jeûne qui est un des piliers de l'islam. Voilà. Concernant le verset que j'ai donné, en effet, c'est un travail personnel, etc., que j'ai fait. Et je me suis dit qu'on pourrait l'utiliser justement pour aller contre cette façon de présenter l'homme qui est pour moi tout à fait dégradante pour l'homme.
Permettez-moi, Nazira Adnani, de vous dire, mais ce que vous êtes en train de faire là, et notamment à propos de l'observance du jeûne, du mois de Ramadan, etc., reste dans ce que d'aucuns appellent une raison religieuse dévote, puisqu'on est dans le cadre de prendre la révélation. Ce n'est pas vous qui êtes mise en cause, mais ceux qui raisonnent ainsi, comme quoi c'est que la révélation est l'élément pourvoyeur du comportement, de l'éthique, de la vie, y compris même pour les islamistes, de la manière de gérer les affaires dans la cité. N'y a-t-il pas une solution ? N'y aurait-il pas, et je suis prudent dans l'utilisation du conditionnel, de dire simplement que la révélation, ça devient un élément pourvoyeur plutôt de spiritualité et d'une relation avec le divin et le sacré, et qu'en ce qui concerne l'éthique du comportement et surtout le droit, ça, c'est une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes.
Vous savez, la question de la définition de l'islam et la deuxième question, tout à l'heure je parlais de la première question, celle-ci c'est la deuxième question.
La première question c'était la réforme.
C'était la question de la place de la pensée dans la pensée musulmane. Faut-il lui donner une place ou pas ? La deuxième question principale qui a construit la pensée musulmane est celle de la définition de l'islam. L'islam est-il une spiritualité seulement ou une spiritualité et une organisation sociale ? Et là aussi, les musulmans se sont divisés entre ceux qui voulaient que l'islam soit une spiritualité seulement et que l'organisation sociale fait partie du domaine des êtres humains, donc qui construisent leur société comme ils veulent et selon leurs normes et leurs règles, et d'autres qui veulent que l'islam, ou qui ont dit que l'islam est une spiritualité, certes, mais également une organisation sociale. Et sans cette organisation sociale, il ne peut pas y avoir d'islam. Dans la première vision, c'est celle des soufis, évidemment, et la deuxième vision, c'est celle des sunnites et chiites. Les deux, on les retrouve dans cette vision.
Y compris les kharijites, parce qu'on les oublie, les pauvres. Et,
oui, les kharijites qui sont au départ
qui sont les sécessionnistes, voilà.
Qui ont quitté Ali après. Donc, voilà, l'islam aujourd'hui est-il une spiritualité ou une organisation sociale? L'organisation sociale doit être un élément qui constitue aussi l'islam ou pas? Ça reste une question.
Oui.
Ça reste une question. Jusque-là, il faut dire que tous les musulmans considèrent que l'organisation sociale fait partie de l'islam, y compris les soufis, à partir du XIIe siècle. Parce que si les premiers soufis considéraient que l'organisation sociale ne faisait pas partie de l'islam et que l'islam, c'est surtout une spiritualité, à partir du XIIe siècle, il y a eu un compromis entre les juristes et les soufis. Donc, les soufis, à partir de ce moment-là, ils ont continué évidemment à mettre en avant l'aspect spirituel de l'islam, mais ils ne rejetaient pas l'aspect juridique. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à dissocier l'aspect juridique de l'aspect spirituel de l'islam. Et voilà donc.
La crise actuelle permettra, si on veut s'en sortir, que de fait. Il reste la dimension spirituelle, mais l'organisation sociale et la gestion des affaires dans la cité, cela doit obéir plutôt à des critères rationnels drastiques. C'est le progrès, comme certains l'appellent, et ce n'est pas nécessairement arrimé à la révélation. Et vous-même, vous le dites, lorsque vous distinguez, comme certains, le fait islamique du fait coranique, le moment mohammedien, le temps du prophète et le moment de la révélation n'est pas celui de la longue et lente construction humaine de l'islam. Et alors, il faut peut-être souligner davantage ce fait-là, c'est-à-dire que ce que nous avons là, c'est un amoncellement du commentaire sur le commentaire et cette longue et lente construction humaine.
Vous savez, quand le prophète est mort, il a laissé derrière lui pour les musulmans un livre et des paroles. Et l'islam n'était pas tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'était pas connu à cette époque-là. C'est pour ça que je dis l'islam a été construit après la mort du prophète. Donc, et d'ailleurs, je parle de l'islam révélé et de l'islam construit. L'islam révélé, c'est l'islam qui existe dans les textes. Mais l'islam que nous connaissons, que les musulmans, tel que les musulmans le comprennent et le pratiquent, ce n'est pas l'islam qui est dans les textes, mais c'est l'islam qui est dans les textes tel que les êtres humains l'ont compris. Voilà.
À travers les siècles.
Et ce travail a été fait, travail de l'interprétation a été fait, et aussi de la théologie et de la méthodologie, parce que l'interprétation ne s'est pas faite comme ça toute seule. Elle s'est faite avec en parallèle, un travail théologique, un travail méthodologique. Et ce travail a été fait à partir du 7e siècle, dès le décès du prophète, jusqu'à, disons, le 12-13e siècle. Et aujourd'hui, nous sommes en train de répéter ce travail inlassablement, ce qui a été fait dans ces siècles-là. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que ces commentateurs et ces juristes qui ont travaillé d'une manière, je dirais, sincère. Ils ont fait d'ailleurs un travail qui est extraordinaire pour l'époque, leur époque. Et donc, ils ont travaillé de sorte que l'islam, ils l'ont abordé d'ailleurs, ils l'ont compris, abordé et interprété selon leur complexité psychologique et sociologique. Mais on dira toujours que ça a été fait entre le 7e siècle et le 12e siècle. Aujourd'hui, je pense que les musulmans sont arrivés, on vit quand même une époque qui est assez loin du XIIe siècle, et que les musulmans d'aujourd'hui ont aussi le droit de revoir leur religion, les textes, pour une autre façon de comprendre l'islam, une autre façon de le pratiquer, qui est adaptée à leur époque.
Alors, non seulement ils ont le droit, mais ils ont le devoir. Le devoir de revoir tout ça, et ils le font à travers les philosophes, les théologiens, des penseurs, et vous en êtes un ou une des représentantes. Pardon, je n'ai pas féminisé le titre. Vous êtes chercheur ou chercheuse dans ce domaine-là. France Culture dans l'émission Questions d'Islam, et nous parlons de l'ouvrage intitulé pour l'instant en langue arabe, hein, donc dont je donne la traduction, Blocage de la raison dans la pensée islamique. Est-ce que ce blocage sert l'islam ou lui porte atteinte ou l'altère? Ça, c'est un peu le sous-titre. Et dans une maison d'édition qui s'appelle l'Afrique d'Orient, Afrique orientale, nous attendons la traduction.
Ce n'est pas une traduction, mais j'ai écrit un autre livre en français que j'ai intitulé L'Islam, le défi de la réforme. J'espère qu'il sortira bientôt.
Eh bien, nous l'attendons avec impatience. Poursuivons ensemble la notion. Vous avez évoqué à quelques reprises le XIIe siècle. Alors, pourquoi nécessairement le XIIe siècle? Est-ce que parce que c'est le siècle d'Averroès, comme on aurait dit, le siècle de Périclès, ou plus tard le siècle de Voltaire, d'une part, et d'autre part, le fait de dire que toute innovation est blâmable et que l'innovation blâmable mène à l'égarement et que l'égarement mène en enfer, nous connaissons la litanie, mais pour certains, c'est un aphorisme du prophète. Est-il apocryphe ou authentique, c'est une autre affaire. Mais ça reste, en tournant rond, si on reste à se référer aux textes et aux paroles prophétiques, dont il faut faire un travail sérieux pour faire le tri entre ce qui est authentique et ce qui est apocryphe, n'y a-t-il pas mieux, et vous allez nous le dire, bah, de s'affranchir de tout cela, de dégeler les glaciations idéologiques et de libérer l'esprit de sa prison.
En effet, il faut libérer l'esprit. Quand je dis réhabiliter la pensée, c'est libérer la pensée. Mais je pense qu'on ne peut pas libérer la pensée et aller vers une autre façon de réfléchir, nouvelle, etc., si on ne fait pas un travail critique de ce qui a déjà été fait pour savoir pourquoi ça a été bloqué, pourquoi nous sommes bloqués, pourquoi la pensée vers le 12e siècle, il y a eu deux principes. Toute innovation est un égarement et la religion est une question de cœur et non de raison. À partir de ce moment-là, il y a eu le blocage de la pensée, de la réflexion, sauf celle qui est là pour justifier ce qui a été fait, et de la raison, c'est-à-dire de la rationalité et de la cohérence dans la manière de réfléchir. Je pense qu'il faut faire ce travail d'analyse critique de cette histoire de la pensée musulmane, comment elle s'est construite et pourquoi elle s'est bloquée et où elle s'est bloquée exactement. Et comment il faut connaître, il faut savoir les erreurs, les contradictions, les failles qui nous permettent de dépasser donc cette pensée. Et j'aimerais rappeler une chose, que les musulmans, lorsque ils se sont posé la question de la place qu'il faut donner à la pensée dans le domaine de la réflexion, la réflexion dans le domaine de la pensée musulmane, et la pensée musulmane, c'est la pensée qui prend l'islam comme objet de réflexion. C'est ce que je veux dire par l'expression pensée musulmane. Donc les musulmans se sont posé la question, ils voulaient savoir si la pensée pouvait avoir ou s'il fallait que la pensée ait une place dans le domaine de la réflexion exégétique et juridique ou pas. Les littéralistes, le littéralisme qui est aujourd'hui la théorie des wahhabites, et c'est elle qui aujourd'hui, comment dirais-je, elle s'est généralisée hein, un petit peu, et étant donné que la théorie wahhabite prend de l'ampleur de plus en plus, cette théorie donc se fonde sur le littéralisme. Qu'est-ce que ça veut dire le littéralisme ? Donc le littéralisme est une doctrine méthodologique islamique qui a été mise en place pour dire que le commentateur, quand il prend le sens du texte, il le prend tel qu'il est. D'ailleurs, en arabe, on utilise le terme « naql ». Donc, il le prend tel qu'il se présente, il le transfère dans le commentaire tel qu'il se présente. Cette façon de croire que le commentateur peut prendre le sens tel qu'il est et le mettre dans le commentaire et le transférer dans le commentaire tel qu'il est, a fait que les musulmans, avec le temps, ils sont arrivés à un point où le commentaire devient égal au texte. C'est-à-dire, le commentaire, c'est le texte. Le texte, c'est le commentaire. Pourquoi ? Parce que le commentateur ne fait que prendre le sens tel qu'il le voit. Et évidemment, cette théorie, cette façon d'expliquer, premièrement, et ce naql, quand il faut faire la critique de ce naql, et quand on regarde, on essaye de regarder ce naql d'une manière critique, la pensée ne peut pas prendre un texte tel qu'il est et le transférer dans un commentaire. Le fait que le sens rentre dans la pensée humaine, il ne sort jamais tel qu'il est rentré. Et la pensée humaine n'est pas un appareil qui photographie le sens pour le prendre d'un texte et le transférer dans un autre. Autre chose, le commentateur ne peut jamais, comment dirais-je, il aborde toujours le sens du texte avec sa psychologie, avec
sa psyché, son entendement. Voilà.
Et donc, il est impossible de croire encore aujourd'hui qu'on peut avoir un commentaire qui est égal au sens, au texte original.
Bien, vous faites bien, Razika Adnani, de critiquer, et avec force, cette idée de du naql, on pourrait traduire ce terme arabe comme étant une sorte de reprise passive ou une manière de copier telle quelle, et de surcroît, faire une sorte d'analogie entre le texte lui-même et ce qui en a été rapporté d'une manière passive en le recopiant, et de surcroît dire que c'est garanti par le divin. Une toute dernière question, et nous arrivons au terme de l'émission, Lazika Adnani, tout en vous remerciant de nous éclairer par vos propos. Vous dites que le blocage a commencé au XIIe siècle. Est-ce qu'il n'y a pas eu entre-temps quelques idées, quelques fulgurances? D'aucuns disent que Ibn Khaldoun, pourtant c'est 1334-1406, alors on est une trajectoire de vie qui correspond au XIVe siècle, n'est pas une sorte d'exception, ou ce n'est pas suffisant, ou de nos jours, il faut peut-être mettre ça de côté et y aller vers d'autres innovations et qui ne seraient pas blâmables et qui ne mènent pas vers l'égarement.
Ibn Khaldoun était un historien et un sociologue. Et ce qu'il a fait dans le domaine de l'histoire et de la sociologie est remarquable. Dans le domaine de la pensée musulmane, Ibn Khaldoun s'inscrit dans la tradition, dans la vision traditionnaliste de la pensée musulmane, et étant donné, et sa position envers la raison était très, très traditionnaliste aussi, étant donné qu'il a, il a lui-même critiqué la philosophie, il a critiqué la raison dans le domaine de la religion. Donc je ne pense pas qu'Ibn Khaldoun a aidé la pensée musulmane à aller vers un autre monde nouveau. Mais dans le domaine de l'histoire et de la sociologie, en effet, Ibn Khaldoun était une exception au XIVe siècle, alors que la civilisation musulmane était dans la décadence totale. Ibn Khaldoun, comme un esprit, évidemment, je dirais, c'était une fleur dans un désert.
Eh bien, le fleur qui n'est pas dans un désert aujourd'hui, mais une belle oasis, s'appelle Lazika Adnani. C'est un esprit éclairé. Vous avez une audace intellectuelle et une hardiesse de la pensée, et pas uniquement dans le domaine de la pensée islamique. Merci d'être venu nous éclairer par vos propos et nous instruire d'une manière édifiante de ce courage, encore une fois. Bonne chance à ce que vous faites. Chers amis auditeurs, je vous renvoie au site internet franceculture.fr et vous y retrouverez les références des musiques et des livres tels que c'est préparé par Sylvia Favre, notre attachée d'émission. La prise de son est assurée aujourd'hui par Pascal Bénard et la réalisation est toujours assumée avec brio par l'ami Franck Lilin.